Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Weekly News. Au sommaire de cette semaine, Justice League et Aquaman qui vont se rencontrer lors d'un crossover avec un changement d'artiste. On ira voir ce qui se passe chez Marvel avec les nouveaux teasers, ce qui nous amènera à notre débat de la semaine, les spoilers en série chez Marvel en ce moment. Dans la partie Screen News, nous regarderons ce qui se passe du côté du cinéma et de la télévision, avec notamment des infos sur Arrow, sur Why the Last Man, ou encore The Shield, et bien sûr le chouchou de Sam, la version longue de Dark Knight Rises.
Oui.
D'ailleurs, en parlant de Sam, c'est lui cette semaine qui nous a préparé notre planning éditorial, et donc c'est lui qui fera la présentation juste après le générique. Je suis Steve, et vous écoutez le 10e Weekly News.
Eh bien, bienvenue dans mon règne de terreur.
Ça fait peur.
Ça commence bien.
Voilà. Donc j'ai destitué Steve pour cette semaine. Et je ne doute pas que mon règne durera 1000 ans.
Il m'a bien destitué et non pas tué tout court, hein. Je le précise.
Voilà. Ni autre chose que j'aurais pu faire. Mais pas ça.
Oh non, ça y est, tu m'as mis des images en tête que je voulais pas avoir.
Bien, bienvenue les gens, donc, dans mon émission à moi. Bonjour Steve, comment ça va?
Mais écoute, ça va bien, je te remercie Sam. Pas trop de pression de te présenter?
Oh non, 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 pas vraiment. Je me prépare à ça depuis la naissance, comme Damian. C'est mon premier pas vers la conquête du monde. Mais nous avons aussi King Ed.
Ouais, bonjour à tous.
Qui, contrairement à son nom, n'est pas King.
Bah non, mais bon, j'aimerais bien.
Peut-être un jour, à ma mort.
Peut-être sera-t-il le prince de ton royaume?
Peut-être, peut-être. Ça dépend. Combien il est prêt à payer?
Ah bon, mince. Ouh, ça va me coûter cher, ça.
Je pense qu'il est prêt à payer de sa personne.
Tiens, en parlant de roi, on va enchaîner sur les news comics, puisque, comme l'a dit Steve dans le programme, DC vient d'annoncer un mini crossover entre la Justice League et Aquaman, intitulé Le Trône d'Atlantis.
Ah, malin, parce que moi je pensais que tu faisais une blague avec Ivan Reis, tu vois, le roi.
Non, 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 c'est vraiment autour de la royauté.
Oh, mais dis donc, c'est beau.
Oui, hein. On pourrait pas se croire que je l'ai préparé.
J'en suis tout émoustillé. Je ne bande pas, mais presque.
Ouf, attention.
C'était pour mettre le tag explicite tout de suite.
Voilà, les gens sont préparés. Donc là, en fait, pour ce gros crossover, en fait, auquel on s'attendait, parce qu'on avait déjà vu dans le preview de Justice League numéro 12 que ça allait un peu se friter entre justement Aquaman et la Justice League, et surtout avec le retour d'Atlantis. Là, il a été annoncé en fait qu'on allait en apprendre beaucoup plus sur les origines de cette cité, pourquoi elle a été coulée. Ça avait été aussi également teasé dans le titre Aquaman. Et donc a priori, ce qu'a dit Geoff Johns, c'est que Aquaman va montrer qu'il est le boss et il risque un peu de prendre un peu la tête de la Justice League dans les deux sens du terme, à savoir peut-être vouloir devenir le chef de la Justice League et aussi leur prendre la tête. Bah voilà quoi, parce qu'il va vouloir assumer son pouvoir et tout, donc on a eu des belles couvertures avec notamment on sait qu'on aura l'intégration de Shazam dans l'équipe, donc ça c'est pas mal.
On nous avait promis aussi l'intégration de Atom qui devrait faire son grand retour.
Ouais, voilà, Atom qu'on a vu également dans ce fameux poster du Free Comic Book Day. Donc bon moi je pense que ça peut être quelque chose d'assez impressionnant et d'assez kiffant, surtout d'avoir pas mal d'infos sur Atlantis, parce que depuis 12 numéros dans Aquaman on a eu des infos sur son ancienne équipe, mais on a eu très peu d'infos sur son statut de roi d'Atlantis qui était teasé dans Justice League, donc bon moi ça m'intéresse beaucoup ce crossover.
Information qui est accompagnée par la confirmation d'Ivan Reis au dessin de Justice League, truc qui était teasé depuis un moment.
Et qui donc quitte bien sûr ouais. Aquaman, puisqu'il va pas pouvoir dessiner. Pourquoi tirer? Je sais pas. J'ai dû voir écrire un truc et ça m'a perturbé. Qu'il ne pourra pas dessiner deux titres en même temps. Et moi, c'est là un petit peu le problème que ça me pose, c'est que je dis pas qu'il faut pas un crossover et que l'histoire ne sera pas bien. Ce qui me gêne, c'est que comme par hasard, le mois où Ivan Reis quitte Aquaman, qui est quand même celui qui fait quasiment le plus vendre Aquaman grâce à son superbe trait dessus, eh ben on nous met un crossover avec la Justice League. Donc comme ça, les gens qui lisent Aquaman liront Justice League, iront voir Ivan Reis. Ceux qui ne suivaient qu'Ivan Reis iront de toute façon lire Justice League pour voir Ivan Reis. Mais on sera quand même obligé d'acheter le Aquaman pour comprendre. Et que même si c'est un dessinateur branleur dessus qui est bon à rien, eh ben, on sera obligé de lire Aquaman. Et je pense que c'est un moyen pour nous habituer à un nouveau dessinateur d'entrée de jeu. Je trouve ça, marketingement parlant,
sauf
un petit peu limite.
Oui, peut-être, effectivement.
Sauf que Steve, ils viennent de nous dévoiler les informations comme quoi le prochain dessinateur de Aquaman, ce sera Ardian Sayas, qui se débrouille très très bien sur Batgirl. Il dessine très bien.
Ah oui, oui,
il avait... Et il connaît bien aussi le personnage d'Aquaman, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais c'est lui qui avait dessiné quelques couvertures pour Flashpoint Aquaman, qui était assez joli. Donc je pense qu'on n'aura pas un truc trop caca sur...
Bien sûr, mais n'empêche que ce ne sera pas Ivan Reis. Et si Jeff Jones continue de faire des scénarios aussi creux, enfin aussi petits, qui tiennent sur un timbre-poste, je ne remets pas en cause son trait. Hein. Il a un très joli trait, Ardian Sayaf, mais... Ce n'est pas Ivan Reis. Et je ne sais pas s'il pourra s'en sortir aussi bien sur autant de vide, finalement.
Bah, on ne sait pas, parce que ça fait quand même, comme l'a dit Kinghead, un an que Jones prépare son histoire. Donc peut-être qu'il a vraiment une idée en tête et qu'il ne va pas nous l'expédier comme il nous l'a fait depuis le relaunch. Parce qu'il a expédié tous ses arcs, en fait. Hein.
Ouais, peut-être que la qualité d'Aquaman va maintenant se reporter sur Justice League. Pourquoi pas, quoi.
Mais en fait, ça célèbre vraiment le nouveau statut d'Aquaman chez DC.
Le truc, ben voilà, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que pour moi, c'est est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est marketing ? Et à mon avis, c'est marketing. Le fait que ce crossover tombe pile poil au changement de dessinateur, c'est plus ça qui me gêne. Après, le crossover, j'en suis très content. Mais c'est pour moi le simple fait que les gens se disent Ivan Reis ne sera plus là, le titre ne sera pas forcément aussi bon. J'arrête de l'acheter. Ben non, tu seras obligé de l'acheter pour continuer à au moins ce crossover.
Ben, en parlant de titres qui seront forcément moins bons. On va parler des Fantastic Four par Matt Fraction maintenant. En passant, je
moi, j'en suis pas certain. Je pense qu'il peut nous surprendre.
Moi, je pense il peut, parce que en fait, sur ses derniers titres, on voyait qu'il abordait un esprit un peu plus délirant, notamment sur les Defenders. Donc, ça peut peut-être s'adapter au FF. En tout cas, on a eu quelques informations sur son pitch, en fait. Pas vraiment plus de détails, puisqu'on sait que ça sera toujours autour d'une histoire des quatre Fantastiques qui s'absentent pendant un an et qui reviennent. Au fin fond de l'univers, mais une information qui personnellement m'a rassuré sur l'avenir de la future fondation en elle-même, puisqu'on a appris que le concept reste. Donc ça, c'est déjà bien. Notamment tous les petits personnages qu'avait introduit Jonathan Hickman dans la future fondation, et notamment Bentley, le fameux petit clone du sorcier qui personnellement me fait marrer.
D'accord.
Donc tu as été rassuré, Sam,
savoir pour une
que
fois.
Cette nouvelle équipe, en fait, n'était là que pour remplacer les Fantastic Four, mais qui gardait le côté école un petit peu.
Qui sera dans FF, ça, et notamment Jennifer Walters, She-Hulk, qui sera le nouveau Ben, qui est adoré par les gamins, les petits moloïdes là, ce qui personnellement me fait toujours marrer.
Ah, moi, ce qui m'a fait le plus rire dans cette interview que l'on a pu lire, c'est quand même le statut de cette nouvelle Miss Chose. Je ne sais pas trop comment la qualifier. Il a dit en fait que, grosso modo, c'est simplement Johnny Storm qui a pas fait son boulot et qu'il devait trouver un remplaçant et bah, il a pris la première personne venue. Et grosso modo, la meuf, ce serait un peu comme si Katy Perry récupérait un costume de super-héros.
La comparaison fait peur.
C'est un peu le problème. Alors, j'aime beaucoup Katy Perry parce qu'elle est complètement déjantée, etc. Donc, c'est vrai qu'elle a un côté assez acidulé qui est plutôt pas mal et même si elle est très commerciale, elle a quand même un esprit assez rebelle. Elle est capable de se remettre en cause et on l'a vu jouer dans des séries en se grimant. Enfin, je l'avais vu passer dans une série où la meuf avait une moustache quand même, quoi. Mmh. Elle faisait une femme avec une espèce de moustache, quoi. S'en foutait de son apparence. Donc, le personnage est sympathique. L'esprit de Katy Perry est sympathique. Maintenant, est-ce que ça va bien se traduire en comics ou est-ce que c'est simplement la première comparaison qui lui est venue par la tête?
Ouais, je sais pas. Bah, je pense que c'est surtout pour avoir un petit ressort comique dans le numéro, quoi, avoir un personnage assez humain qui a aucune habitude des pouvoirs de super-héros, qui se retrouve avec une armure hyper puissante, bah, elle va se retrouver à faire des conneries, quoi, donc ça va être le côté comique, je pense. Pourquoi pas. Mais en même temps, c'est un concept tellement tellement taré que bah, moi, ça m'intéresse.
Ah, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. En plus, dessiné par Allred.
Bah voilà, c'est ça.
C'est un immanquable, ça.
Ouais.
Donc, au moins, tester sur le premier numéro.
Ouais, voilà.
Exactement.
Ou peut-être, en tout cas, les 2-3 premiers, le temps de voir comment ça s'adapte, puisqu'il nous a bien dit que les deux séries seront liées, en tout cas, sur le premier arc, mais qu'à partir du deuxième, ça devrait commencer à bouger un petit peu.
Sachant que le premier arc, avec Faction, devrait durer entre 24 et 360 numéros.
T'es pas du tout de mauvaise foi, pas du tout.
Non, du tout. On reste chez Marvel avec toujours cette petite politique de teaser assez mystérieux cette fois-ci, puisque on a juste un mot, supérieur.
Alors on va se retourner vers King Ed, qui est notre devin S Marvel Now.
Ce qui est alors, au moment.
Pour supérieur, c'est ça?
Allez, donne-nous ton avis. Vas-y.
Bah, je sais pas. Moi, après, c'est ce que j'ai lu sur Internet, que a priori, c'était un auteur qui avait travaillé sur une très grosse série. Et qui du coup va faire un relaunch hyper important en 2013. Donc moi je sais pas, moi je voyais très bien la série Spider-Man s'arrêter et recommencer à zéro. Donc moi je pense que ce sera la série le reboot de la série Spider-Man après le numéro 700.
Franchement, c'est con d'atteindre le 700 et pas de faire 701 quoi. Franchement.
Ouais. Bah en même temps sur Avengers, ils avaient atteint le 500, ils ont rebooté au 503
hein. Oui, c'est vrai. Ah. Mais en même temps, ils avaient détruit l'équipe.
Oui.
Ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que rebooter. Ça aurait pas été logique que ça continue. Mais vous qu'à l'époque, il y avait presque 6 mois sans Avengers. Hein.
Bah techniquement, dans l'univers Marvel, nous, on a attendu 3 semaines. Hein.
Oui, c'est vrai. Faut pas le dire.
On passe ensuite à la série qui a fait la renommée de King Ed maintenant. Avengers Arena, puisque King Ed avait prédit avec une acuité absolument sidérante qui nous ferait peut-être penser qu'il a ses chemins à l'intérieur de Marvel
ou à l'intérieur de quelqu'un chez Marvel. Hein,
Non, mais alors en fait pour moi c'était juste parce que ça me paraissait logique vu le succès des séries comme Hunger Games. Mais c'est vrai que j'étais pas peu fier de ma découverte et d'avoir vu juste. Et surtout le côté Battle Royale complètement assumé.
Alors ça, non mais voilà, parce que toi tu nous avais quand même parlé d'un truc à la Battle Royale, et là qu'est-ce qui nous sort? Une cover qui ressemble à du Battle Royale.
Bah c'est exactement le logo de Battle Royale quoi. Donc,
c'est les personnages qu'on voyait dans Avengers Academy manifestement, qui sont apparemment enlevés par Arcade, et emmenés dans son tout nouveau Arcade World, Murder World, et donc il va y avoir des morts très vite.
Voilà. Et tu nous avais pas parlé du Murder World?
J'en avais parlé il y a quelques temps avec le Deadpool versus Marvel Universe, parce qu'il y avait un numéro là-dessus. Mais par contre, toi, Steve, tu m'avais dit « Ah ouais, mais attends, ils vont pas pouvoir faire ça sur un ongoing et tout, machin, bidule, blablabla. » Donc je sais pas, oui, parce qu'en même temps, t'as pas tort. Hein. Je sais pas comment ils vont pouvoir réussir à garder le scénario, enfin le pitch sur une série avec un grand nombre d'issues.
Bah, à moins que Denis Soples ait pris des cours avec Matt Fraction.
Ouais.
Et le sois capable de délayer en 25 épisodes ce que tu peux faire en 3.
Et le petit truc qui me gêne, c'est que quand on connaît le concept de Battle Royale, c'est quand même quelque chose où les personnages meurent dans d'atroces souffrances. Et là, ça voudrait dire qu'ils nous créent des personnages qui soient bons à être tués chez Marvel, et des enfants les voir mourir vraiment dans un comics. Je sais pas jusqu'à quel point ils vont aller au bout de leur idée.
Bah, déjà sur la cover, on voit des croix sur le visage de deux personnes, donc on peut se douter qu'elles vont mourir ou en tout cas être éliminées.
Voilà, mais alors est-ce que c'est juste qu'ils vont être virés du jeu vidéo ou du arcade du Murder World, ou est-ce qu'ils vont mourir pour de vrai?
Bah, Denis Soples dit qu'il y aura des morts dès le premier épisode. Donc
moi, je vois bien le truc. Je vous le dis comme ça, parce que je vais faire ma prédiction à la King Ed, moi aussi. En fait, Arcade est en lien avec Mojo, et tout ça, c'est une grosse télé-réalité.
C'est possible.
Ça pourrait très bien être ça.
Pourquoi ça, pas, d'ailleurs, ouais.
Voilà. Ça me paraît simple. Et donc, c'est dans cette série-là que l'on aura les personnages de Runaways, dont on nous parle, qui vont revenir, certains des personnages de Runaways. Voilà. C'est là qu'on va les retrouver, dans cette série.
Et je trouve que, et par contre, X-23 est tombé un peu bas, je trouve, quand même. Elle aurait mérité peut-être un meilleur titre que...
Bah, encore une fois, un personnage dont on ne sait pas quoi faire.
J'aurais préféré la voir soit dans Thunderbolt, soit dans X-Force, mais pas là, quoi.
Bah, dans X-Men, moi, j'aurais préféré, parce que c'est sa place. Même Wolverine et The X-Men, hein, c'est sa place logique. Hein.
Ouais, ça aurait été bien.
Ils auraient pu faire Wolverine, une série Wolverine and Kids, aussi. Où il récupère tous ses enfants.
Bon, je suis pas sûr que Daken, il va s'en sortir très bien dans X-Force, mais bon.
Ouais.
Donc on passe à l'autre série annoncée qui va faire beaucoup parler, je pense, c'est la nouvelle version des Thunderbolts, avec des nouveaux personnages dans la continuité de l'histoire du titre, où le cast change assez souvent, puisque désormais les Thunderbolts seront dirigés par le Red Hulk, avec des personnages comme le Punisher, Elektra, Venom, Deadpool, donc c'est...
Ah, on n'a pas eu de bol, c'est quand même une news qui est tombée juste après qu'on ait enregistré celui de la semaine dernière.
Ouais, genre donc, une heure après.
Elle est plus très fraîche, mais bon.
Mais alors du coup, la question c'est, est-ce que le titre c'est juste en rapport avec la série précédente, ou est-ce que c'est juste un clin d'œil parce que le chef s'appelle Thunderbolt? Et du coup, on est complètement à l'opposé du concept original, quoi.
Par contre, j'avais même pas fait ce rapprochement là.
Mais voilà, alors l'équipe c'est Red Hulk, on a vu Elektra, on a qui d'autre sur la couverture? On a Venom, Punisher et Deadpool. Donc Deadpool qui change encore d'équipe, comme d'habitude.
Ah déjà Deadpool qui intègre une équipe, c'est bien. Moi déjà je le voyais pas durer dans X-Force, je suis content qu'il soit resté jusqu'à là. Quoique content, c'est un bien grand mot.
sur le papier, c'est une belle équipe quand même, hein.
Mais c'est surtout qu'en plus, là on a l'avantage d'avoir un Deadpool écrit par Daniel Way, donc un Deadpool que l'on connaît bien. Puisque bah, il a quand même sa série régulière depuis un petit moment écrite par lui. Elle va être relancée avec Brian Posehn et je me rappelle plus le nom de son co-scénariste. Donc on aura peut-être un Deadpool différent. On pourra au moins se retrancher sur ce Deadpool-là pour ceux qui n'ont pas envie d'une nouvelle version de Deadpool ou qui n'accrocheraient pas cette nouvelle version de Deadpool.
Ensuite, il faut voir le pitch. Hein. Qu'est-ce qui va amener tous ces personnages ensemble? Ça sera à voir.
Mais je sais pas, moi c'est tellement des gros bourrins que cette série j'ai envie d'aller voir juste parce que c'est des gros bourrins. Et avec Steve Dillon.
Ouais, en plus qu'il redessinera le Punisher.
Ouais, bah déjà qu'il redessinera le Punisher, premièrement. Alors c'est vrai qu'il fait toujours les mêmes gueules, t'es pas super fan d'un toi je crois, Kinghead.
Ah non mais alors je déteste, et surtout le fait que ce soit Hulk qui soit leur chef, quand on sait comment il dessine Hulk. Dans Ultimate Avengers, il a dessiné des Hulk, mais ils étaient vraiment, on dirait des Mongoliens. C'était hyper moche. Et j'ai un petit peu peur au niveau des dessins, surtout voir une Elektra dessinée par Steve Dillon aussi.
On l'a vu dans Punisher Max.
Ah ouais, maman.
Steve Dillon est quand même
insulté par le Caïd.
Ah ouais. Steve Dillon est quand même très bon pour tout ce qui est scène ultra graphique, et donc avec des personnages comme ça qu'on se doute bien, ce sera pas du gentillé bisounours. Tiens, je t'ai attrapé, je te fais un bisou. Non, là ça va être je te découpe ta gueule en fait, tout simplement. Et il y a des chances que ce soit assez graphique, et Steve Dillon, je pense, est peut-être la bonne personne pour ça.
Ouais, pourquoi pas. À voir.
À voir.
On est quand même plus proche d'un X-Force que d'un Thunderbolt premier du nom.
Merci de m'offrir cette transition énorme, Steve.
Je t'en prie. J'aimerais vraiment te dire que ça a été fait exprès, mais c'était totalement involontaire.
Donc, la nouvelle version d'X-Force, réintitulée Cable et X-Force par Denis Oplès et Salvador Larroca, qui met donc en scène une équipe, toute nouvelle équipe, qui nous pose beaucoup de questions, puisqu'on y voit donc Cable, Docteur Nemesis.
Avec un nouveau look.
Docteur oui, Nemesis. On avait tellement envie. Forge et Colossus.
Et Domino.
Je l'ai dit, Domino.
Ah, excuse-moi, je l'ai même pas entendu. Alors c'est vrai que c'était le teaser Wanted. Qu'on se demandait, Ah là là.
Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit c'est des personnes qui sont recherchées par le gouvernement ou les trucs comme ça. Et effectivement c'était le pitch, c'est ce qu'ils ont mis dans le pitch.
Ouais. Alors.
Ils étaient tous recherchés pour des crimes et.
Ils vont être recherchés pour des trucs, un attentat terroriste face à quelqu'un qui est ouvertement anti-mutant, parce qu'ils vont se retrouver sur le lieu de là où il y a une explosion. Ils vont être pris pour cible en pensant que c'est eux qui ont fait le coup. Et ils vont être poursuivis par les Uncanny Avengers. Donc déjà pour moi ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Étant donné que dans les Uncanny Avengers, on a quand même des gens comme Havoc, qui c'est qu'on a encore, mais Rogue. Enfin voilà, ce sont des gens quand même qui connaissent un minimum les personnages qui sont là. Et on ne les croit pas, on ne leur fait pas confiance. Bon. Passons.
Il y a quand même d'autres incohérences, comme le retour de Forge, qui est censé être mort depuis quelques années.
Oui, parce que Warren Ellis lui avait bien chié dessus quand même dans Astonishing X-Men.
Ouais. Mais de toute façon, il avait bien chié sur l'arc en entier.
Oui aussi.
Mais Steve, au moins, on voit le retour de Cable, qui était toujours dans cette pièce, tu sais, avec avec Nova pendant AVX.
Là, on nous dit dans ce petit article qui nous présente la série, on nous dit oui, enfin le grand retour de Cable pour un personnage tel que lui, il fallait un grand retour. Alors, je rappelle quand même que son vrai retour, c'est Avengers Extinction, que c'était juste de la merde, et que de toute façon, il aurait déjà dû être là pendant AVX et qu'il ne sert à rien et qu'il n'est pas là. Donc, franchement, le retour. Pipo, quoi.
Bah oui, mais je crois qu'en fait ils ont lu Avengers Extinction depuis, donc ils se sont dit on va quand même essayer de réparer.
Ça va être annulé dans la continuité ça, mais non, mais en fait c'était sur une terre parallèle, enfin vous aviez pas compris.
Et il a un petit design un peu bizarre sur la couverture avec une sorte de bras, un prolongement de son bras bionique machin.
Oui, il a un bras qui dépasse le en dessous le genou, hein, ce qui est quand même une caractéristique des singes.
Rappelons. Hein. Mais en fait, on dirait que c'est une prothèse parce qu'on voit peut-être son poing au-dessus. Je sais pas trop si c'est ça, mais c'est bizarre.
Faut quand même rappeler que les êtres humains normaux ont les bras qui, quand ils pendent le long du corps, ne descendent pas en dessous le genou. Hein. C'est véritablement une caractéristique simiesque que de descendre en dessous les genoux. Donc je sais pas s'ils essayent de nous envoyer un message. Peut-être. Mais non, mais moi, il y a des choses, franchement, qui me choquent. En plus, vouloir reprendre la cover, une des covers classiques d'X-Force, notamment quand X-Force avait voulu prendre son indépendance de Cable, pour cette cover du numéro 1. Je sais pas, j'irai quand même voir la série, parce que l'équipe en elle-même a des chances de pas très bien fonctionner, donc ça peut être un bon truc, mais... Voilà, moi, il y a juste le look du Docteur Nemesis que j'aime bien, ce nouveau look. Espérons qu'il soit bien écrit, le personnage.
Moi, je connais pas du tout ce personnage, par contre.
Non, il a été réintroduit dans les X-Men au moment d'Utopia, ouais. Mais ils n'ont jamais fait grand-chose. Donc
Je t'encourage à lire le run de Matt Fraction sur...
Non, j'ai dit de l'oublier autant que je peux.
Comme ça, tu verras Docteur Nemesis. Personnage qui est vraiment sous-exploité, c'est dommage. C'est un gros con, il est détestable, mais malgré tout, il fait le job.
Ouais.
Et donc, on a le problème de Colossus.
Qui, depuis 10 ans, est quand même assez maltraité. Il est mort, ressuscité, torturé, fusionné avec le Juggernaut et le Phoenix, et il est maintenant recherché.
Ouais. Au moins, on sait qu'il s'en sort.
Voilà.
Celle-ci était volontaire, donc si tu veux y aller...
Oui, en fait, on va faire un petit détour de 10 minutes, puisqu'il vient d'être annoncé la nouvelle version de Uncanny X-Force, donc encore une version de X-Force, par Sam Humphries et Ron Garnet.
Ah, d'accord.
Qu'à voir. Pas beaucoup d'infos encore pour le moment disponibles, mais sachant que Sam Humphries ne m'impressionne pas beaucoup sur Ultimate Comics, donc c'est peut-être à ne pas voir.
Il a de plus en plus de titres chez Marvel, en tout cas.
C'est la star montante de Marvel, ils essayent vraiment de le promouvoir. D'ailleurs, la preuve, il a 2 séries dans le Marvel Now, et ils sont pas beaucoup d'auteurs pour le moment à avoir 2 séries.
Ouais, ça c'est assez impressionnant, ouais.
Donc on entend encore qu'il écrive un truc de bien, quand même.
Y a lui et Denis Soples, en fait.
Ouais.
Denis Soples, il a écrit le X-Men Season 1 qui est très bien. Donc,
Moi, j'aime pas, donc voilà, pour le moment, il m'a pas convaincu, le mec. Mais...
Moi, j'attends avec impatience la composition de cette fameuse équipe d'X-Force, parce que du coup, c'est un peu la grande question, quoi, à chaque fois, quand il y a une...
Wolverine.
Oh oui.
Sans doute, oui, quand même.
Ça fait quand même maintenant, depuis 2008, qu'on a une équipe d'X-Force avec Wolverine, donc ça fait 4 ans. Je pense qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, les nouveaux lecteurs, X-Force, c'est Wolverine. Ça va plus choquer les gens, enfin, à part les vieux comme nous qui lisons du comics depuis très longtemps, avoir une série Cable et X-Force sans Wolverine, ça va plus choquer les gens que leur faire plaisir. Donc bon, je sais pas. Je sais pas.
Non, mais il y aura Wolverine, un clone de Wolverine et un second clone de Wolverine. Ils se disent, comme ça, on est sûr que ça se vendra.
C'est vrai qu'en même temps, une série de mutants griffus véritablement en équipe, une série avec des gens comme Wolverine, Sabretooth, Wildchild, je sais pas s'il a encore envie, Ran, enfin tous les personnages griffus et un tout petit peu, on va dire, poilus, tous ces gens qui ressemblent à Wolverine, quoi. Ça pourrait être un bon concept. Marvel, si tu nous entends.
A priori, si j'en crois le petit article qui vient d'être publié, ça se passerait à Londres, l'histoire. Donc
à Londres.
Ouais.
Retour de Captain Britain.
Voilà, peut-être, ouais.
Qui après les Secret Avengers va partir dans X-Force.
À voir. Oh. On a très peu d'infos.
Donc on va plutôt enchaîner maintenant avec le sujet de la semaine, dont on aurait déjà dû enchaîner dessus depuis un moment, mais
c'est pas. T'avais lancé une super transition en plus.
Ouais, voilà, en plus tu m'as fait une super transition, mais voilà, l'actu dicte les transitions, c'est comme ça.
Ouais, on croirait, tu sais, une émission super pro et tout. On a une news importante qui vient de tomber. Alerte info, comme sur BFM TV, tu sais. Priorité au direct, je vous en prie. Pardon.
Donc le gros sujet de la semaine, c'est depuis 8 jours les différents spoilers publiés par Marvel dans la perspective de AVX 11 avec une certaine mort qu'on va pas spoiler.
Ouais, on va continuer à pas la spoiler, ce sera pas plus mal.
Voilà. Et le futur après AVX avec le AVX conséquence, puisqu'on a eu la couverture avec un personnage qui apparaît comme mort apparemment.
Au moins bien défoncé.
Voilà. Là, par contre, je pense qu'on peut le dire parce que c'est la conclusion un tout petit peu logique de cette histoire. On se doute bien que...
Oui, que Cyclope va perdre ça.
Oui, voilà, que Cyclope va perdre. On voit un Cyclope étendu. Bon, rien ne prouve qu'il est mort. Voilà, on voit juste défoncé.
Il est défait.
Ouais. Alors qu'ils auraient pu faire, je sais pas, un an de Dark Phoenix Reign, par exemple. Ça aurait été rigolo.
Ils en ont été capables. Hein.
Déjà fait pourtant, mais c'est vrai qu'ils en auraient été capables.
Disons que voilà, c'est vraiment... On se demande un peu ce qui leur passe par la tête, puisque tout l'intérêt de lire des comics, c'est justement de ne pas se faire spoiler à un moment, c'est de découvrir en lisant, pour ensuite pouvoir en parler. Alors que là, ça a été spoilé quasiment deux jours avant.
Au-delà de ça, moi je dirais que c'est surtout l'intérêt d'un event, puisqu'on sait très bien que les events, c'est ce qui fait en général bouger l'univers, quelle que soit la compagnie, hein, que ce soit chez Marvel ou chez DC, un event est censé redonner un second souffle, faire bouger les choses, redonner un nouveau statu quo à l'univers, la preuve avec ce qui suit, hein, le Marvel Now, où tout va changer, et on avait eu déjà la preuve avec, après Secret Invasion, le Dark Reign, enfin, voilà, on avait eu pas mal d'événements comme ça, et c'est tout l'intérêt, c'est ce qui va venir ensuite, si on nous révèle tout à l'avance, et notamment ce qui se passe après, effectivement, surtout dans un event, je pense que c'est là où il faut vraiment pas spoiler, mais...
C'est un peu le problème, puisque au vu de beaucoup de couvertures, on sait déjà qui survit.
Ah oui.
Même parmi les Phoenix, les Phoenix Five, là.
Ouais, non, mais c'est dommage,
même,
en plus, parce que...
C'était quand même l'un des enjeux...
Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, oui. On a l'habitude que dans les previews, parfois, quand ils veulent cacher des informations, bah, ils mettent une ombre noire sur les personnages, et il y a même ce petit jeu d'essayer de deviner qui est la silhouette. Mais là, ils ont pas du tout joué ce jeu-là pour tous les Marvel Now, parce qu'ils veulent nous en mettre plein la vue, et nous donner le max d'infos pour que tout le monde soit intéressé et achète. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas ce côté, les petites surprises qu'on aurait aimé avoir sans se faire spoiler, quoi.
Ah, on a déjà vu, hein, dans des sollicitations, des covers complètement noirs avec un gros point d'interrogation dessus, ouais. Et dans la sollicitation, le petit résumé qui est censé te raconter ce qui se passe dedans, écrit « spoiler ».
Voilà. Mais
le temps, par exemple, de Daredevil 5 par Joey Quesada et Kevin Smith, où il y avait une mort importante et personne ne l'a su avant.
Mais le problème, c'est surtout que Marvel Press, ça c'est Marvel Press, n'importe. Mais je vais trop vite dans mes phrases et j'oublie. Vous allez voir, j'oublie la moitié des mots. Marvel a pris l'habitude dans ses conférences de presse. Vous voyez que j'ai oublié tout un point de la phrase.
Effectivement, c'est tout une partie de la phrase là.
À vouloir aller trop vite, voilà ce qui se passe. Ils ont l'habitude de faire des conférences de presse le lundi. Et révéler ce qui va se passer dans les comics qui sortent le mercredi. Alors, je veux bien croire que c'est un média qui, de par le nombre assez faible de ventes, a tendance à devoir faire un maximum de pubs. Je suis d'accord, je peux comprendre le principe. Mais en revanche, la conférence de presse, tu la tiens au moins le mercredi. Je veux dire, qu'est-ce que les gens peuvent en avoir à foutre, la plupart des, comment ça s'appelle, des grands médias, donc tous ceux qui vont participer aux conférences de presse, les Fox News, les USA Today, tous ces médias qui ne sont pas de la presse spécialisée comics, qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir à foutre d'avoir le spoiler à l'avance? Ils le savent le mercredi ou ils le savent le lundi, pour eux ça ne change strictement rien.
Ouais, mais après c'est peut-être aussi une façon dont sont considérés les spoilers en fonction des pays, quoi, parce que je veux dire, aux États-Unis ça marche peut-être plus comme de la pub, alors que par exemple en Europe c'est vu comme étant un sacrilège de révéler des choses. C'est peut-être aussi pour eux, c'est, enfin je sais pas, depuis qu'on a eu par exemple Miles Morales qui avait été spoilé, enfin, ou même la mort de Peter Parker déjà dans l'univers Ultimate.
En même temps, c'était spoilé par le titre. Hein.
On a eu toute une série, c'est vrai, chez Marvel, de 3 jours avant la sortie des comics, le gros spoiler qui est révélé. Il y a eu le mariage gay, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été révélées. Et en fait, on a l'impression que pour eux, pour les Américains, c'est une façon de faire de la pub, et qu'ils se disent, de toute façon, notre lectorat, il achète nos comics, on risque d'avoir plus de gens qui en achètent, et en fait, le fait qu'ils aient une surprise ou non, ça se trouve, c'est pas si grave, parce qu'eux, ils continuent à acheter. Alors que peut-être en Europe, il y a le problème qu'on est décalé, c'est-à-dire comme on a les infos de la version, par exemple, française, et qu'en plus, on aime bien suivre l'actualité des versions originales, on se retrouve à avoir des infos qui datent d'un an en avance dans le futur, quoi. Donc c'est plus choquant pour nous, je trouve, je pense, les spoilers que pour les Américains. Mais bon, après c'est peut-être juste ce que je pense, mais
peut-être parce que personnellement, moi, quand j'ai vu les spoilers de la semaine dernière, ça m'a donné encore moins envie de lire l'épisode, puisque au fond je savais déjà le principal événement qui se passait dedans. Donc quel intérêt de le lire?
Non, mais ça, c'est s'aliéner une partie du public, c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'il y en a qui aiment bien avoir les spoilers. Je veux dire, quand il y a les scripts, par exemple, de films hyper attendus qui arrivent sur le net, il y a plein de gens qui veulent les regarder, les lire et tout pour savoir ce qui se passe. Et généralement, ça fait même de la promo pour le film. Mais c'est...
Personnellement, j'avais évité. Par exemple, tout ce qui était les spoilers sur Avengers ou Dark Knight Rises, je sais que je m'étais coupé complètement parce que je voulais absolument pas me faire spoiler.
Bah ouais, non mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Sam, c'est quand même beaucoup plus sympa pour apprécier quelque chose, mais...
Voilà, tu le découvres au moins de le lire ou de le voir au cinéma.
Ils ont dû faire des calculs ou je sais pas quoi.
Qu'il y ait quelques petites annonces qui te teasent à mort et qui te donnent envie, tu vois. Genre, il va y avoir quelqu'un qui va mourir. Ça oui, d'accord. Mais qu'on te dise, il y a quelqu'un qui va mourir, mais alors attention, il a une visière.
Voilà.
Non mais là c'est surtout comme on nous montrait carrément la planche.
Bah oui, bon là c'est encore pire, mais voilà, c'était pour prendre un exemple. Alors ce n'est pas vrai, hein, je dis ça complètement au hasard, mais parce que si ça devrait être vrai, on va croire que j'ai spoilé les gens.
Non mais voilà. C'est je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais après en même temps DC Comics ils font un peu la même chose. Ces derniers temps, tu sais, il y a eu le cas avec Wonder Woman et Superman qui s'embrassent. Qui avait été aussi, il avait eu droit à sa campagne de publicité juste la veille de la sortie du comics. Ouais, je te dis, c'est vraiment de la pub maintenant pour eux.
Et surtout qu'en plus, marketingment parlant, il y aurait de quoi faire un vrai coup sans pour autant spoiler les lecteurs assidus qui vont acheter leur comics le mercredi, de faire une cover banale, enfin de ce qui se passe dedans, donc la Justice League face à Graves, hein, puisque c'était le thème du numéro 12, et puis tout de suite le mercredi soir, attendre quand même la fin de la journée, le mercredi soir ou le jeudi matin, annoncer que le comic a été sold out, même si c'est pas forcément vrai, mais peu importe, de toute façon le nombre de fois on nous annonce que c'est sold out, on sait plus vraiment ce qui est vrai ou pas, mais annoncer que le comic est sold out et présenter cette deuxième cover où là justement ils s'embrassent et là ça fait le buzz. Tu vois?
Ouais, non, mais
parce que, je veux dire, les comics restent sur le stand américain, pendant un mois complet. Donc, même si tu l'achètes pas le mercredi de la sortie, il est encore disponible le jeudi, le vendredi et tous les autres jours du mois. Donc, il y a le temps. On n'est pas obligé de spoiler, deux jours à l'avance, quoi.
Mmh. Ouais, c'est vraiment pour faire parler en dehors vraiment maintenant de la sphère comics, en fait.
Mmh. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais alors, il faut savoir aussi qu'il y a quand même deux types de sollicitations, parce que c'est vrai que bah, pour nous qui devons suivre l'actualité, on est les premiers à souffrir de ce spoil constant.
C'est la fin de la journée.
Ah, il est bien gros le spoil là, il est bien consistant.
Oh là,
bien consistant le truc.
Je suis à côté de mes pompes là ce soir. Du coup, oui, je disais donc que le... Il y a deux types de sollicitations, les sollicitations pour le grand public, mais il faut savoir que les revendeurs de comics ont un catalogue spécial pour eux, avec des sollicitations qui sont beaucoup plus spoil. Et de temps en temps, il s'avère que certaines de ces sollicitations filtrent sur le net. Et donc ça continue à faire qu'il y ait plus de spoil encore, comme si on avait déjà pas assez.
Parfois, voire très souvent.
Il faut qu'ils incitent les vendeurs de comic shop à en commander beaucoup plus, et pour ça, pour leur faire... leur donner l'envie de les acheter, il faut qu'ils leur disent « Ah, il va y avoir telle personne qui meurt, machin. »
Mais ça, je peux comprendre. Mais c'est vrai que, rappelons-nous, il y a de ça à peu près 10 à 15 ans. À l'époque, il y avait quand même le previews, bien sûr, qui était l'argument de vente, hein, que tu avais dans les comic shops. C'est-à-dire que tu regardais le previews, tu regardais les trucs, tu disais « Bon, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. » Et le mec du comic shop notait ce que tu voulais prendre, et il te faisait sa commande. Comme ça, il avait pas de surstock. C'est comme ça que ça marchait. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient abonnés aux previews, mais c'était relativement une élite. Et donc, les spoils n'étaient pas aussi constants. C'est vraiment l'avènement d'Internet qui fait qu'on a de plus en plus de spoils, et il faut faire une communication mass-média, et tu en prends plein la gueule sur les réseaux sociaux, tu en prends plein la gueule sur les sites de news, partout, quoi.
Non, mais c'était assez flagrant, parce que justement, pour AVX, par exemple, sur la page Facebook de Panini, il y a carrément eu un message de Jérémy Manès disant « Attention au spoil en VO, parce que c'est un truc qui va se passer dans un an. » Et je veux dire, deux minutes après, il y avait déjà le truc qui était spoilé sur leur mur, quoi. Ils étaient obligés d'éditer le truc.
Et ça, par contre,
c'est super dur de passer à côté d'un spoil qui finalement t'intéressera que plusieurs mois après, quoi. Et c'est dommage.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros souci, et je pense que ça vient aussi du respect ou du non-respect de certaines personnes par rapport aux autres. Finalement, quand tu as un spoil, tu demandes aux gens s'ils veulent être spoilés avant. Le minimum, c'est de leur dire. Ou alors, quand on fait une émission comme nous et qu'on sait qu'on va vraiment spoiler, on précise avant, comme ça les gens peuvent zapper. Pour moi, c'est le béaba, quoi. T'as pas à te faire spoiler sans le vouloir. C'est comme quand on te raconte la fin d'un film, quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est
désagréable. Et merci encore pour cette transition, Steve.
Tout à fait.
Oui, énorme transition, puisqu'on passe aux screen news maintenant, c'est-à-dire les news télé et cinéma. Avec, on commence avec New Line, le studio New Line, qu'on n'entend pas beaucoup en fait sur les adaptations de comic book en général, mais qui détient une franchise qui a un gros potentiel, je pense, qui est Y The Last Man, qu'ils détiennent depuis quand même un petit moment maintenant, qui était en, je dirais pas en semi-mort, mais qui était dans ce qu'on appelle le L-développement, c'est-à-dire dans les limbes.
Et voilà, dans les limbes, tout à fait.
Et qui apparemment serait revenu dans leur bande grasse et serait redevenu une priorité pour le studio.
Dira-t-on que les Avengers ont fait
oui, 1,5 milliard.
Ouais. Non, mais je pense que pour beaucoup, hein, ceux qui avaient acheté des droits de comics, se rendent compte que finalement, les films de comics, c'est réellement bon cable, comme s'ils n'avaient pas déjà compris avec la trilogie ouais. Spider-Man ou avec les deux premiers Batman de Nolan. Ils se disent que putain, les Avengers, ils ont fait 1,5 milliard quand même. Ils sont troisième. Bon, bah, on va peut-être faire des adaptations de comics. Ça marchera peut-être.
Puis surtout maintenant, je pense qu'ils commencent vraiment à comprendre qu'il n'y a pas que des super-héros au sein de la production comics et qu'ils peuvent trouver des concepts extrêmement intéressants et originaux.
Bah, on avait déjà eu le cas notamment avec des choses comme History of Violence. Mm-hmm. Oui. Personne ne sait que c'est adapté d'un comic book au départ.
Bah ouais. Bah, il faut dire qu'il y a peu de lecteurs de comics qui savent eux-mêmes que c'est adapté d'un comic book. Sinon, c'était confidentiel à la base. Hein. Ah
ouais. Mais ouais, ce serait cool. Mais après, moi, je sais qu'Y, c'est tellement dense que j'aurais tellement préféré que ce soit une série télé, ou au moins une mini-série, quoi. Parce que en un film, ça va peut-être être chaud. Hein.
Alors, ouais. À l'époque, il faut savoir qu'il parlait de 3 films, il parlait d'une trilogie.
Fouf, alors là, je sais pas si... Ouais.
À l'époque, c'est-à-dire il y a de ça 3-4 ans, quand on a entendu déjà parler du projet et ouais, que ça
c'était quand même pas l'importance d'un Seigneur des Anneaux ou d'un Star Wars, quoi. Y, c'est plus confidentiel. Même si c'est bien, mais...
Ouais, mais encore une fois, si on sait pas forcément que c'est adapté d'un comic book... Pour les gens,
ça peut
aussi être
c'est si confidentiel, parce qu'effectivement, le single ne se vendait pas super... ne se vendait pas beaucoup, en fait. Par contre, les TBB se vendaient extrêmement bien. Et ils se continuent à se vendre, en fait. Donc, c'est vraiment un public plus large dans les librairies et dans les grandes villes.
Ouais, mais par rapport à Avengers ou Batman, t'as pas le dessin animé, t'as pas
voilà,
les...
t'as pas la...
C'est vraiment quand même plus un public adulte, c'est Vertigo. Mmh. Bon, s'ils arrivent à faire un bon scénario sur un film, pourquoi pas, quoi, mais...
Je vais répéter une chose.
Ouais, mais c'est Corwin qui sera content. Parce qu'on sait qu'il est fan de ce comic.
Alors à l'époque, c'est marrant parce qu'il parlait de Shia LaBeouf pour...
Pour faire Yurik. Donnez-moi une corde.
Bon, apparemment, il est plus envisagé, hein, parce que c'était à l'époque où on parlait du projet.
Tant mieux.
On a surtout beaucoup parlé de Zachary Levi, qui jouait Chuck dans la série télé.
Ouais, bof.
Ce serait déjà plus proche, ouais, je pense.
Et puis surtout qu'il a quand même défendu le projet, puisque si vous avez regardé la série Chuck, sur les murs de la chambre du héros, vous avez quand même d'énormes affiches Y The Last Man.
Ouais, mais alors tu peux pas faire une trilogie sur le nom de Zachary Levi, quoi. Enfin,
vraiment pas.
Une star, quoi. Donc, ouais.
Ouais, mais enfin, en même temps, qui croyait au projet de John Carter?
Ouais, mais t'as vu ce que ça a donné.
Bah oui, j'ai vu ce que ça a donné. Le film est pas si mal que ça. Et malgré les scores désastreux à cause de la pub, hein, rappelons-le quand même que c'est le fait de la faute à Disney qui n'a fait aucune com avant de sortir le film au cinéma, ils vont quand même faire le 2. Hein.
Ah ouais, j'ai pas entendu parler de ça.
Non, moi je croyais qu'il l'avait abandonné.
Apparemment, moi j'avais entendu dire que ça avait été confirmé, donc.
D'accord. Parce que moi je suis d'accord avec toi, le film était pas si mal, mais je croyais que ça avait vraiment tellement floppé au niveau du box-office que. Mais bon, pourquoi pas.
En fait, grâce à l'international, ils se sont rattrapés. Ils ont pu rembourser le film.
Ils ont fait déjà une meilleure com pour les ventes de DVD et je pense que ça a dû peut-être pousser certains à en acheter.
Ouais. Bon bah à voir en tout cas. Hein, si ça se trouve dans 5 ans, on reparlera d'une news comme quoi ils vont ressortir peut-être Y au cinéma.
Alors le projet n'est toujours pas mort.
Voilà, donc à suivre parce que c'est quand même un projet, je pense, qui tient à cœur à beaucoup de lecteurs de comics. Un projet qui tient moins à cœur, hein, on va dire, c'est la nouvelle série télé Arrow.
Bah ouais, je vais regarder quand même.
Alors moi aussi, au fur et à mesure, là, je commence à me dire, je vais peut-être tenter quand même le premier épisode.
Faut tenter. Bah, non, honnêtement, faut pas tenter le premier parce que les premiers pilotes, si on ne regarde que le pilote d'une série, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Les pilotes sont tellement réécrits et reshootés pour correspondre à des screenings, des audiences, très confidentielles pour voir si ça marche. Que le pilote n'a plus rien à voir avec ce que sera la série. Donc, pour moi, je pense qu'une série, on peut la juger en regardant à peu près 3 épisodes.
Ouais, ok. Bah, je vais peut-être lui laisser sa chance.
Donc deux infos sur la série. La première, c'est que Jeff Jones, alors vous avez peut-être entendu parler, c'est un scénariste un peu célèbre chez nous, va écrire un des épisodes de Arrow. Donc monsieur qui est quand même habitué, puisqu'il avait déjà écrit deux épisodes, voire trois de Smallville. Mm-hmm. Donc c'est un média qu'il connaît bien.
Bah, du coup,
assez peu d'infos disponibles sur le contenu de l'épisode.
A priori, c'était peut-être l'introduction d'Huntress dans l'univers de Arrow.
Apparemment, ce serait le septième épisode, donc il faudra peut-être regarder au moins jusque-là.
Ouais.
Au purée, le sept épisode quand même.
Bon, 7 fois 42 minutes, c'est pas la mort.
Peut-être. Je sais pas.
Tu fais ça en faisant autre chose, en faisant caca, en chez
moi,
en faisant
moi, la cuisine. Moi, il n'y a pas une flèche Gantbox, je regarde.
Et quand même, toujours sur Arrow, ben le titre va avoir droit à son comic book. De la même manière en fait que Smallville la saison 11, c'est-à-dire un petit fascicule toutes les semaines, toujours écrit par les créateurs de la série, donc Mark Guggenheim et Andrew Kreisberg, qui sont aussi des habitués du comic book. Manifestement, en fait, ce serait des histoires sur le qui avaient été pensées dans le lors de la conception du pilote, mais qui n'avaient pas été retenues pour manque de place.
Ouais. Ouais, parce qu'ils étaient mauvais.
Oui, c'est plus en fait, je pense que ça a plus des informations sur l'univers et pour essayer d'enrichir un peu le truc.
Enfin, moi je vois qu'ils vendent ça surtout à 99 cents. Déjà honnêtement, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire un comic book sur une série qui commence juste. Laissons le temps à la série d'installer son univers et tu sors un comic book entre les deux saisons pour que les gens qui aiment, qui sont fans de la série, quand ils voient le dernier épisode, tu fais une petite série de trucs qui se passent en comics et quand tu reviens à la nouvelle saison, tu arrêtes et tu le fais à chaque fois qu'il y a des breaks, quand il y a le break d'hiver, quand il y a le break entre deux saisons. C'est là qu'il faut faire de la promo pour que le personnage reste vivant et qu'il y ait toujours de l'attente.
Ouais.
Moi, c'est pas en sortant le premier épisode, ah bah vous aurez le pilote et puis si vous voulez vous pouvez aller lire le comic book.
C'est une stratégie multimédia en fait.
Après quand on voit la qualité, il m'est arrivé de feuilleter des numéros de Smallville ou même d'autres séries qui sont sorties comme ça à 99 cents, c'est pas gêne quand même. Donc, ouais.
Alors je peux dire que moi j'irai voir la série mais j'irai pas lire le comic book, ça est hors de question.
Ah, en même temps, le premier épisode sera dessiné par Mike Grell.
Ah.
Ça peut donner envie.
Bah ouais, parce que Mike Grell quand même sur Arrow, enfin sur Green Arrow, parce que là le problème c'est que c'est Arrow. mais sur Green Arrow, en tout cas, Mike Grell, quoi. Plus besoin de la présenter,
voilà,
monsieur.
Ça a toujours quand même. Ça fait toujours des faits.
Ok.
Ensuite, on continue avec l'univers DC, mais cette fois-ci au cinéma. Donc, si, pour ceux qui ont écouté le dernier Weekly News, où ils ont entendu mon badge de la semaine, qui était la rumeur d'une version longue de Dark Knight Rises qui ressortirait au moment de la sortie de Man of Steel. Donc j'étais très 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 en colère. Et ben manifestement, ma colère a été entendue, mon cri de rage du cœur, puisque tout ça n'était qu'une sale rumeur qui a été effectivement démentie par Nolan. La version qu'on a eu au cinéma est la version définitive.
Bon, je vais dire vraiment ce qui s'est passé. C'est que bon, vous auditeurs, c'est bizarre. Vous auditeurs, vous ne l'avez pas entendu parce que je n'ai pas pu le laisser, mais après l'enregistrement, Sam est parti en diatribe folle contre Nolan, il l'a menacé de mort, etc. Moi, j'ai enregistré discrètement, je lui ai envoyé le fichier dans la semaine. Et je pense qu'il a eu très peur. Il a eu très peur de toi et de tout ce que tu avais promis de lui faire parce que il y avait des choses, on pourrait même pas les répéter, quoi. C'est terrible. Bon, ça parlait juste de sodomie avec des objets coupants, tranchants, enfin voilà, il y avait des choses terribles.
Donc,
Donc c'est du coup, il a eu peur, je pense, et c'est pour ça qu'il finalement ils ont dit non, Sam il va nous défoncer, donc on va faire l'annonce cette semaine.
Ouais, j'allais faire le voyage.
et moi je pense surtout que c'est qu'ils veulent vendre beaucoup de Dark Knight Rises et que dans 10 mois on aura la confirmation de la version longue. Mais bon, c'est pas grave.
Oui.
Et là il y aura des meurtres en série.
Encore. Non, franchement, ce film, il en attire trop, je pense. Mais je pense aussi un peu comme toi, Kinghead. Pour ma part, je suis certain que une fois que les trois films se seront bien vendus, on aura une version qui comprend les trois, et ensuite on aura une Ultimate Edition Collector en platinum et même en vibranium carrément. Et du coup, on nous sortira le truc avec trois ou quatre Blu-ray bonus où on aura toutes les scènes coupées des trois premiers films. Enfin, des trois, quoi, en fait. Ouais. Moi, je le vois bien comme
ça. Parce que Nolan n'est pas connu pour ça. En général, les versions qui sortent au cinéma sont les versions définitives pour lui.
Oui, mais en même temps, le studio, voilà, Monsieur Dollar a parlé, et puis le studio, il a les droits, donc Nolan, il peut juste fermer sa gueule. Si les studios ont les rushs, ils sortiront les scènes coupées. Et ils ont pas besoin de l'avis de Nolan pour pouvoir le faire.
Ouais, mais est-ce que ça se vendra sans le, sans la bénédiction de Nolan?
Bien sûr que oui. N'importe qui aura envie d'aller voir les scènes coupées.
On continue chez Warner Bros. Avec une autre info qui nous donne envie de nous arracher les cheveux. Qui, enfin, c'est pas une info, c'est plutôt une rumeur, selon laquelle le retour de la Justice League en 2015, puis des autres films ensuite, notamment le reboot de Batman, se situerait dans des univers différents.
Ouais.
Ouais. Ça, c'est... Et ben, alors moi ça me choque pas tant que ça, parce que je me dis que s'ils nous font un Justice League un peu comme on a eu par exemple Justice League New Frontier, qui était un petit peu hors continuité, et que du coup il n'y a pas besoin d'expliquer les origines des persos, ça pourrait donner un putain de film. Après, c'est un peu dommage de passer à côté d'un univers étendu. Mais
Moi, ce qui me gêne, c'est que encore une fois, j'ai l'impression de dire que des choses négatives sur cette semaine. Mais franchement, vous croyez que nous, ça nous dérange moins parce qu'on est habitué à avoir ça se passe dans tel univers, c'est pas relié avec tel autre. Ce qui se passe sur Earth 2 n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la Terre normale. D'accord. Nous, on est habitué parce qu'on est lecteur de comics, mais le public lambda, est-ce que franchement, il est prêt à comprendre que ça se passe pas dans le même univers?
Que c'est pas joué en plus pour les mêmes acteurs.
Ouais, ça risque de paraître bizarre.
Ouais. Puis, est-ce qu'il y a vraiment besoin de films individuels pour comprendre les origines? Franchement, les origines de Superman, on les connaît. Si c'est pour nous reprendre Green Lantern dans un côté, Flash de l'autre, Aquaman, et chaque personne se croise et c'est des acteurs différents, quel intérêt?
Bon, 2015, hein, quand même. On a le temps de voir venir.
Voilà.
Ah, bon, ça va venir plus vite qu'on croit.
Mais personnellement, je pense pas qu'il sortira en 2015 parce qu'il y a Avengers 2 qui sort en 2015. Donc, à la place de Warner Bros., je repousserai sur 2016. Hein.
Oui, c'est clair. Il vaudrait mieux, je pense.
Voilà, parce que pendant 3 mois, voire 4, on va parler que de ça. Hein. Et superbe transition qu'on m'offre encore une fois. Mais merci, chers collaborateurs.
Ah là là.
Les chers sujets.
On peut peut-être pas exagérer, hein, Sam.
Fallait que ça dérape.
Sur un futur trailer de Iron Man 3, puisqu'on sait que le tournage est quasiment fini, voire fini. Donc, pour les prochaines semaines.
Bah enfin, parce que depuis les images là qui nous font baver, qui sont passées à la Comic-Con et qu'on n'a toujours pas vu, il serait temps.
Sachant que les rumeurs s'enchaînent sur le scénario, donc bon, je suis plutôt content. Pour le moment, ils aient assez bien conservé le secret. En même temps, est-ce que ça veut pas dire qu'ils ont inventé l'histoire au fur et à mesure? C'est ce qui me fait un peu peur.
Les mecs, en fait, ils ont fait, allez, vous mettez les costumes et vous improvisez, on trouvera un scénario. On fera des dialogues en post-prod. Aussi, hein. Ah putain. Ouais, la méthode Stanley, hein, ça marchait, rappelez-vous. C'était comme ça qu'ils faisaient les comics dans les années 60. Ils disaient, ouais, tiens, voilà une histoire, tu me dessines ce que tu veux, et puis moi, je remplirai les bulles.
Voilà. Et tu te démerdes.
Et il a construit un univers comme ça, le monsieur, donc pourquoi pas dans un film?
Bah oui, mais il avait des gens créatifs avec lui.
Oh, bah Shane Black sera peut-être créatif.
Ouais, bah il est connu pour ça, quand même. Hein.
J'ai confiance.
L'arme fatale, messieurs, l'arme fatale. Toujours dans l'univers Marvel et toujours dans les Avengers, on a vu beaucoup d'images sortir de Thor The Dark World, particulièrement impressionnantes, qui mettaient en scène une énorme bataille, en fait, contre des ennemis assez mystérieux pour le moment. On n'a pas beaucoup d'infos, mais les images donnent à voir quand même un film qui sera dans un ton très différent du premier.
C'est un fake. En fait, ils ont photographié des mecs qui faisaient un GN.
Ouais.
Non, en fait, ils veulent nous montrer que ça a la patate, quoi. Il y a du gros combat façon Seigneur des Anneaux. Ça se frite avec des grosses armures. Ça sera beaucoup moins intimiste que le premier Thor qui se passait dans une petite ville américaine. Là, ça va être les mondes magiques. Ça va chier, quoi. Donc, bah, tant mieux, quoi. Mais bon. Après, c'est peut-être un petit peu dommage qu'on en voit autant.
Ben pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. On a vu que quelques scènes de bataille.
Est-ce que ça ne repoussera pas le public qui s'était accroché à Thor? Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas fans de comics et qui me disent « Ah, Thor, j'ai bien aimé ».
Oui, c'est sympa.
Je les regarde, je leur dis « Ouais, c'est à droit. »
C'est un peu cucu. Ça,
voilà.
Ouais, il est pas mal.
Est-ce que finalement, c'est pas aller à contresens de ce que les gens attendent pour un numéro 2, là, ceux qui ont été voir le film en masse, parce que faut pas rêver, hein, les fans de comics, c'est pas eux qui ont pouvoir finalement. Hein.
Non. Mais en même temps, moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que durant tout le premier volet de Thor, on nous a annoncé la grande guerre contre les géants de glace, et en fait on a rien vu. Pendant 1h30, ça va être la guerre, ben non. C'était très sympa.
Donc, la guerre, elle était dans le jeu vidéo, Thor.
Voilà.
Là tu pouvais faire la guerre contre les géants de glace.
Voilà, le premier, je dirais, était une histoire plus portée sur Thor et son évolution, et d'en faire un peu moins un connard.
Ouais, où il essayait surtout de choper Nathalie Portman.
Ouais. C'est toujours une bonne raison, je trouve, mais enfin bon. Voilà. Mais je trouve que c'est normal de pas essayer de répéter encore et encore le même film.
En tout cas, ça fait plaisir, ça veut dire que ça avance, le tournage a l'air de bien se passer. Vivement la sortie du film.
Reste à voir où se situera Nick Fury dans ce film-là.
Je pense pas qu'on le verra beaucoup dans celui-là. Hein. Ça sera vraiment. Déjà, je sais même pas comment ils vont faire pour intégrer certains des humains en fait. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment les mondes magiques autour d'Asgard. Ça, c'est vraiment intéressant. Thor sur Terre, on peut l'avoir dans Avengers.
Oui. Mais j'ai essayé de t'offrir une transition, ah ben... mais en fait.
Merci.
C'était pas.
On revient sur Terre avec la série télé Shield. Puisque Joss Whedon a confié quelques petites infos sur le sujet. Donc normalement on devrait avoir uniquement des nouveaux personnages dans la série télé, et ça porterait effectivement sur l'organisation du Shield, des gens sans pouvoir dans un monde où les super-héros commencent effectivement à émerger.
Ok, bon, c'est pas inattendu comme pitch, on s'attendait un peu à ça.
Faudra voir quoi. Le problème c'est que là on en a trop peu pour se faire une idée. Je pense qu'à partir du moment où on verra les premiers visuels et puis même qu'on en saura un petit peu plus sur le pitch. Alors il y a une limite entre en savoir trop et d'être spoilé et puis au moins être attiré. Pour le moment, pour moi c'est comme s'il avait rien dit quoi.
Bah, en même temps, ça explique qu'on verra pas Iron Man dans tous les trucs. Ah c'est juste, on n'a pas un budget de 10 millions pour payer Robert Downey Jr. C'est cool.
Ah c'est pas la série Avengers, hein, c'est la série. Ouais.
En même temps, comme il expliquait, la solution c'était de dire Iron Man était là il y a 2 minutes, il vient de partir.
C'est dommage, je l'avais raté.
Ça aurait pu être drôle, remarque.
Ouais. Ils vont peut-être le faire dans le premier épisode juste pour la blague.
Je pense. Connaissant le père Whedon, il risque de faire ça.
Le premier épisode, à mon avis, il va tout péter niveau caméo de personnages. Ouais. Hein, je pense qu'ils vont se faire plaisir.
Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa. Puis j'espère qu'on aura surtout des caméos de personnages de l'univers Marvel qui ne sont pas forcément passés à l'écran et que les gens tels que nous pourront reconnaître.
Mais yes.
Mais je crois que c'est tout.
Oui, c'est tout. On a fini avec les Screen News. Pas de bash de Raspberry, je pense, cette semaine.
Moi, j'ai juste un petit bash.
Oui.
Parce qu'ils ont révélé le nouveau design du Robocop dans le prochain film qui sera de façon de la merde. Oui. Et le design, c'est de la merde aussi. Ouais, donc, allez voir les images sur internet. C'est très moche, on dirait un motard. Voilà, classique. Moche, avec une armure moche. Et tout noir. Mais après, peut-être ça, ils vont changer en post-prod, mais c'est moche. Et de toute façon, ce film, ça sera de la merde. Donc voilà.
C'était le. J'ai l'impression que Kinghead est légèrement remonté.
Ah non, mais j'en ai marre, là, qu'ils fassent des remakes des films de Verhoeven. Là, déjà, Total Rectal, c'était de la merde. Ça va être, comme on a dit quoi? Ce serait,
Robocolon,
oui, c'est très 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 bien ça.
Robocolon, voilà, c'est ça.
Et Robocop.
Moi, j'attends le remake de Starship Troopers, hein, qui est lui aussi prévu.
Oh putain.
Et puis peut-être un remake de, je sais pas, moi, Showgirls ou un truc comme ça.
Oui, c'est un remake de Showgirls. Basic Instinct, ils vont le refaire aussi.
Mais par contre, ils ont pas réussi à avoir un remplaçant Sharon Stone, donc ils ont décidé de prendre Susan Boyle. Alors, je sais pas pourquoi elle me passait en tête à ce moment-là.
Oui, ça fait peur.
Pas de coup, tu décris.
Quelle horreur.
Bah, c'est tout pour cette semaine.
Oui, ben on va terminer avec le Comics-Com, hein, comme d'habitude. Plein de réactions positives, encore une fois. Et surtout, beaucoup de remerciements à toi, Kinghead, d'avoir...
Attends, il faut dire qu'avec ma prédiction digne d'un devin gaulois, c'était quand même assez cool, quoi.
Donc, ça serait ton rôle dans mon nouveau royaume.
Voilà, j'égorgerai des poulets et je regarderai les entrailles et je déterminerai l'avenir du comics.
Il y a des bleus à se faire. Là.
Voilà, exactement.
La Kinghead, le nouveau Joe Quesada.
Ouh, celui qui couche avec Joe Quesada.
Ah non, alors surtout pas de ça, par contre.
Ah ouais, mais bon, faut quand même au bout d'un moment avouer la vérité.
Non, faut te dévier pour la cause, hein.
Non. Rappelez mon surnom, c'est pas ça.
C'est le French Lover, mais on n'a pas forcément dit. Oui, bon, l'autre c'était le Chick Magnet, mais va savoir. Voilà, Joe Quesada avec une robe et une perruque.
Je préfère celui-là.
Joe Quesada avec une robe et une perruque, tu le repères pas.
Donc, il n'en finit pas.
Ouais. Voilà, comme d'habitude.
Oui, mais c'est qu'on avait un petit peu de temps. Je surveille le compteur, on avait un peu de temps. Ouais, quant à moi, pas de bâche. Et puis bah, merci encore de continuer à nous envoyer autant de réactions positives et d'être toujours aussi réceptif à ce weekly fait... news.
Ouais, et c'est
de plus en plus nombreux à ce qu'on nous dit.
Ouais.
Ouais, ouais, ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Ça nous inspire aussi dans nos recherches après de bah, d'informations et donc voilà, continuer à commenter, ça nous fait plaisir et.
Et puis ça nous donne envie aussi d'essayer d'avoir toujours une formule attrayante. C'est pour ça que là, cette fois-ci, on a essayé de changer, de mettre le sujet qui prête à débat entre la partie news et la partie screen news, histoire de modifier un peu le rythme. Dites-nous si ça vous plaît. Si vous préférez le gros sujet en entrée plutôt qu'au milieu. Bon, en même temps, le plat de résistance, c'est mieux de le manger au milieu. Mmh. Oui, c'est une analogie cunilaire. Oh là là,
cunilaire. Oh.
Il est temps de conclure.
Ça y est, je suis grillé, je suis un pervers. Avouez, c'est avoué. Oui, c'est un cunilapsus.
Heureusement que t'as pas dit cunilingus, hein, parce que là...
Oh là là, quelle horreur. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain Weekly News. Alors, ça va être une semaine de podcast, puisque jeudi, si tout va bien, vous aurez aussi le Comic City qui fait son grand retour. Le Comic City nouvelle formule, et que, bah, pour l'occasion, nous avons appelé Comic City numéro 0.
Parce que c'est voilà. Nouveau.
C'est la saison.
Moi, des numéros 0 sur chez DC, c'est magnifique.
Et oui, voilà. Et puis bon, c'est une nouvelle formule qu'on inaugure. Un moyen de prendre le train en marche, puisque oui, Comic City, il y avait de la continuité à retenir. Attention. Il y avait résumé
mais
des épisodes.
Ne vous inquiétez pas, on reprend la numérotation normale ensuite.
Oui, oui, oui. Et ah, puisqu'on reviendra pour, on peut pas le rater. On va pas faire un relaunch au moment du numéro 69. Merde.
Bah oui. ça le ferait pas. Année érotique, quand même.
Donc voilà, et puis bah samedi vous aurez le Comics Weekly, jeudi, puisque nous l'enregistrons le jeudi, mais c'est vrai que vous l'aurez samedi. Donc trois podcasts cette semaine, je pense que ouais. les plus assidus d'entre vous seront ravis.
Ouais. Et dimanche, notre annonce de décès. Mort par podcast interposé.
Eh bien très bien, on se retrouve donc la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ah non, juste quand même, une dernière ouais. chose. Merci Sam, à toi d'avoir assuré l'intérim de cette émission, que ce soit en termes de préparation comme de présentation, puisque cette semaine, ce week-end ouais. notamment, j'ai été pas mal pris pour des problèmes personnels, et donc j'ai pas eu besoin de le faire. Et je dois avouer que c'était pas mal de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit.
La préparation était pas mal. Après, je trouve que pendant l'enregistrement, il se l'est un peu trop pété, mais bon.
Non. C'est mon moi naturel et tout le monde aime mon moi naturel.
Ah, qui sait, peut-être que tu seras mis à contribution dans les autres semaines.
Ah oui, un jour, je vais essayer de faire un putsch. Un putsch.
Que je repousserai vaillamment.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.
Allez, ciao à tous.
Au revoir.